Nous commençons par la prière. Seigneur, tu nous as parlé, tu nous parles, tu nous as déjà parlé durant la semaine, même avant, tu nous parles de différentes manières, mais tu nous parles. Des fois, nous avons tendance, des fois, que tu ne nous parles pas, que tu ne réponds pas aux prières. Mais en fait, tu nous parles tout le temps. C'est que nous ne nous t'écoutons pas. C'est que nous avons un voile qui nous sépare. Comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul sur la route de Damas, il persécutait ton église, il te persécutait en sorte, puisque les chrétiens, c'est toi-même, c'est l'église. Tu as permis à ce qu'il soit aveuglé. Mais quelques jours plus tard, ta parole nous dit que les écailles sont tombées de ses yeux et il a retrouvé la vue. Alors c'est pourquoi ce matin, je te prie, Seigneur, mon Dieu, de faire tomber les écailles de nos yeux, de déboucher nos oreilles, de déchirer le voile afin que nous puissions avoir accès au lieu très saint où tu résides, où tu parles. Je te prie de mettre de côté tout ce qui peut être fabriqué par l'homme, par moi-même en l'occurrence, et que pour mes frères et sœurs et pour moi-même, que tu puisses parler en m'apprenant à être à ton écoute, en étant dans la crainte, en étant prêt à être remis en question à chaque instant dans l'humilité, la simplicité. Une remise en question qui peut venir simplement par une révélation, une décision, mais aussi par les épreuves que tu mets devant nous, devant moi. Des fois, c'est le chemin que tu choisis pour nous, que notre nature n'aime pas, et pourtant, le chemin que tu as mis devant le peuple hébreu, le peuple juif pour sortir d'Égypte. C'est le chemin que tu as mis devant Abraham, c'est le chemin que tu as mis devant Jonas, c'est le chemin que tu as mis devant David, c'est le chemin que tu as mis devant l'Église depuis qu'elle est née le jour de la Pentecôte. Encore une fois, que ta volonté se fasse, qu'elle nous soit révélée. Amen. Alors aujourd'hui, bon, je dis toujours la même chose, hein. Donc, aujourd'hui, ça sera toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Et je ne veux pas vous apprendre quoi que ce soit, mais c'est juste un rappel. Un rappel de quelque chose que vous savez, que nous connaissons, parce que si nous sommes chrétiens, nous le savons. C'est que le Christ est vainqueur. C'est bien de se le rappeler. Parce que souvent, on a tendance à juger le Seigneur à travers notre propre vie. Parce que moi, je vis pas une vie chrétienne digne, d'un seul coup, on dit que c'est le Christ, quelque part, n'est pas vaincu. N'est pas vainqueur, plutôt. N'est pas vainqueur. Si le Seigneur ne vient pas à mon secours, c'est presque en quelque sorte, je remets en question sa victoire. Et bien, le thème d'aujourd'hui, c'est Christ est vainqueur. Une première lecture dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. En tant que chrétiens, nous avons Christ en nous. Et ça, nous le savons. Nous avons Christ en nous à travers l'Esprit Saint. Et bien, la Bible nous dit, nous dit que nous sommes en Christ. C'est-à-dire, il nous fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ben, c'est le témoignage, en fait. C'est-à-dire, normalement, nous sommes en Christ, et bien Christ, il est là parmi nous, à travers nous, et il répand son odeur. Il est en train de témoigner, il a parlé de lui chez les chrétiens et les non-chrétiens. Ça, c'est le chrétien. Clair. Mais c'est possible si nous vivons cette communion avec Christ. Si nous continuons à vivre une vie chrétienne en mettant Christ de côté, et moi je suis là, il est là-bas, il continue, et je me dis, je suis chrétien quand même, parce que dans le monde, je dis, d'accord, il y a les moments pour Christ, pour le chrétien, et il y a les moments pour le monde, mais il n'y a pas de communion là. Donc c'est normal que le témoignage ne marche pas. Il n'y a aucun point. C'est logique, puisque le témoignage vient de Jésus lui-même à travers nous. En fait, on ne fait rien, nous. On croit qu'on fait quelque chose, mais rien du tout. Quand nous acceptons Christ en nous, l'Esprit rentre en nous, et c'est Christ qui témoigne à travers nous pour les autres. Donc, en fait, quelque part, moi-même, je dirais même presque, je suis inutile, puisque la parole nous dit que Dieu, s'il dit à cette pierre, parle de Dieu, elle parlera de Dieu. Mais dans son amour, il a dit, à travers nous, il va témoigner. Mais s'il témoigne à travers nous, s'il est en nous, Christ en nous, il vient tout entier en nous. C'est-à-dire, il vient, le Christ, il vient entièrement. C'est-à-dire, celui qui a marché il y a 2000 ans, qui est monté sur la croix, qui a la soin, et qui aussi, c'est-à-dire, il y a tout le parcours qui vient en nous. C'est-à-dire, cette transformation que Dieu a faite, c'est-à-dire en donnant sa vie, il vient là nous la faire vivre en nous. Et cette transformation qu'on appelle l'œuvre de la croix, le brisement, la transformation, la métamorphose, le changement qui se fait en nous, c'est Christ qui le fait en nous, et pendant qu'il le fait, le témoignage commence à se faire. Et des fois, on a des gens autour de nous qui disent, qu'est-ce qui se passe chez vous? Il y a quelque chose qui je n'arrive pas. En fait, ils réalisent qu'il y a quelque chose qui se fait en nous, mais c'est Christ qui le fait en nous, le témoignage commence par là. L'Église primitive, hein, des premiers temps, l'Église primitive, vivait dans l'exaltation d'un Christ triomphant. La première Église. Les premiers chrétiens à Rome, hein, par exemple, les premiers chrétiens, et l'archéologie nous le prouve, aimaient inscrire sur leur tombeau la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Alpha et Oméga. Vous trouvez ça? C'est que pour y mettre ça, ils affirment, c'est ce qu'on a remis on a discuté ce matin, ceux qui réduisent Jésus à un simple prophète. Vous voyez ? Ceux qui disent, oh, c'est pas grave, il faut trouver un certain écuménisme entre différentes religions, parce que l'essentiel, c'est qu'on soit tous d'accord et tout, on a le même Dieu. Vous voyez ? On habille ces chrétiens-là, reconnaissaient Jésus comme l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il est éternel. La gloire de la résurrection inonde par sa divine lumière l'Église primitive, jusqu'au point de donner leur vie. Ils proclamaient sur leur tombeau, Jésus est vivant. Alors qu'ils sont morts. Jésus est vivant. En se réunissant le dimanche, comme on le fait ce matin, il faut le savoir, comme les premières assemblées, l'Église primitive, nous affirmons et nous témoignons de ce glorieux triomphe du vainqueur de la mort et du péché, Jésus-Christ. Chaque dimanche, c'est la fête de la victoire du Christ. Ça ne veut pas dire que les autres jours, ce n'est pas la fête du Christ, c'est tous les jours. Mais comme nous nous rassemblons le dimanche, en fait, c'est comme si on arrive, hop, à l'apogée pour fêter la victoire du Christ le dimanche, mais qui est tous les jours. Dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul a en vue l'image du général romain qui célèbre le triomphe de sa victoire entrant couronné sur un char dans le Grand Rome, ayant à sa suite enchaîné les chefs ennemis vaincus et précédé d'esclaves qui répandent des roses et des parfums sur son passage. Ça se passe comme ça à Rome quand on... les chefs guerriers qui gagnaient, qui rentraient à Rome. Ainsi, dans certaines traductions de ce même passage que je viens de vous lire, certains traducteurs tellement pris par l'Esprit de Dieu, ils ont écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous enchaîne derrière son char triomphal pour célébrer sa victoire sur les ennemis de Jésus-Christ. » Vous voyez ? tellement emporté, c'est de, l'esprit l'a emporté par la victoire en Jésus-Christ qu'il a écrit ce passage-là de cette manière. Le Christ de l'apôtre Paul est un Christ victorieux. À chaque instant, l'apôtre nous parle de sa victoire et de sa gloire, la gloire du chef triomphateur. Dans l'épître aux Colossiens, c'est voilà une épître très céleste, au chapitre 2, verset 15, il nous montre le triomphe de la croix. Désormais, Paul va éclater dans l'allégresse tellement que certains commentateurs ont pu dire que dans ses lettres, l'apôtre Paul cite des hymnes. Des chants de victoire en honneur dans les premières communautés. Certains commentateurs disaient les épîtres comme des chants de Dieu, pour Dieu. Voici l'hymne de victoire des chrétiens persécutés. Romains 8, chapitre 31, versets 31 à 39, il faut l'écouter comme un hymne, comme un chant que les chrétiens persécutés le chantent. Pas comme une simple lettre que l'apôtre Paul écrit. Je vous le lis. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Rappelons-nous, c'est des chrétiens persécutés à qui s'est adressée cette lettre et qui la chantent. Imaginons, ils sont en train de la chanter. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce l'épée? Est-ce les lions qu'on nommait? Non, pas du tout. Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on ne regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, écoutez bien, dans toutes ces choses que nous ne vivons pas, nous, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ajoute, ce n'est pas écrit à forte raison pour le petit bobo, ce qui peut nous arriver, c'est rien du tout. Il nous semble plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est les chrétiens persécutés qui sont en train de dire ça. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite vraiment, en rentrant chez vous, de lire Romains 8, chapitre 31-39. Je vous assure, ça prend aux tripes et ça nous parle au plus profond de soi. Et je dis bien, lettre adressée à des chrétiens persécutés. Voici l'hymne de la victoire sur la mort. On a peur de la mort, on est tous pareils. Quitter ce corps, quitter ses proches, vous voyez, la souffrance de la séparation. Voici l'hymne de la victoire sur la mort, l'apôtre Paul qui nous donne cet hymne. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 57 à 57. Non, versets 54 à 57. 1 Corinthiens 15, 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, mort, résurrection, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Et la victoire, c'est Christ. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Y compris la mort, notre mort, notre disparition de cette terre. Le Christ de l'apôtre Paul est un Christ triomphant. Jésus, dans l'évangile de Jean, l'annonce lui-même. Jésus lui-même l'annonce. Dans Jean, chapitre 12, verset 23, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. qui nous dit encore, qui continue à nous dire encore que Jésus est simple prophète? On continue à le dire? Ou remettre en question ce qu'il a accompli à la croix? Dans sa première épître, il nous montre, Jean nous montre la grande victoire du Fils de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 5, nous lisons « Ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ?» L'Apocalypse est rempli de chants de gloire et nous montre l'agneau vainqueur parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Apocalypse chapitre 17, verset 14. La source de la victoire des saints, des chrétiens des premiers temps, réside dans le sang du Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11. C'est ensuite dans le ciel le triomphe du Christ. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. On parle du Christ qui est en nous. Oui, tout ça, il est en nous. Apocalypse chapitre 5, verset 12. La gloire de Christ et sa victoire se manifestent dans de pauvres vies, bien misérables. Quelles que soient nos chutes, nos souillures, l'horreur et la profondeur de nos crimes, le Dieu de l'incarnation qui est descendu du ciel dans la pauvre étable de Bethléem vient encore renouveler ses miracles et vient habiter dans notre vétuste et misérable âme souillée et y faire resplendir sa gloire. Nous devons vivre avec un cœur repentant à tout instant qui alimente notre sanctification et nous éduque pour une vie dans l'esprit qui nous prépare pour la rencontre finale. Ne ratons pas cette occasion-là. Dans les vies les plus simples, les plus humbles, dans les vies, on n'entend même pas parler de ces gens-là. Oui. Dans les vies les plus cachées, les plus médiocres, souvent, la gloire est plus profonde. Dans le Nouveau Testament, on y trouve de grands exemples. Par exemple, le riche publicain, le fonctionnaire qui abuse de son autorité. Je fais un petit clin d'œil. Vous savez de qui je parle ? De Zachée, le collecteur d'impôts. Oui ? Où tous les juifs vous voyez comme un voleur, comme un profiteur. Et bien notre Seigneur est passé dans sa vie. Et le Seigneur nous cite sa repentance comme un exemple pour l'Église de tous les siècles. La pauvre veuve qui a mis dans le tronc le quart d'un sou, pas grand chose, négligeable aux yeux des hommes, et pourtant qui a enrichi à jamais l'Église de Dieu jusqu'à nos jours. La prostituée, en larmes, qui est venue au pied de Jésus et qui a brisé le vase d'albâtre, a pour jamais embaumé la maison de Dieu. L'assassin sur la croix a prononcé une bien courte prière. Rien du tout à côté de ce qu'on nous disait en nous au Seigneur. Mais le Seigneur lui a fait une grande promesse. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle distance, quel abîme entre le Christ victorieux et nos défaites et nos chutes. Et cependant, Jésus a pu dire, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Nous vivons par la victoire de Jésus, pas par la nôtre. C'est dans Luc chapitre 10, verset 18. L'Église proclame à chaque siècle, le nôtre aussi, à chaque siècle, la victoire du Seigneur. L'Église proclame à chaque siècle, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'Église proclame à chaque siècle que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. L'Église doit annoncer le Christ, puisqu'elle est membre, elle est Christ lui-même, l'Église. Notre Seigneur a dit lui-même, « Je vous ai donné la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. » Luc, chapitre 10, verset 19. Dieu a remporté définitivement la bataille de Gethsémané. Rappelez-vous, Gethsémané, où il passe la prière jusqu'à son sang est transformé en grumeaux. Dieu a vaincu au calvaire, c'est-à-dire à la croix. Il a porté sur lui la tyrannie de nos souffrances, la tyrannie de nos questionnements. Il a porté mon aliénation. Il a porté mon égoïsme. Il a porté mon individualisme. Il a porté mon égocentrisme. Il a porté ma nature pécheresse. En fait, il m'a porté tout entier en lui, avec mes qualités et mes défauts. Il m'a crucifié avec lui. Il m'a crucifié avec mon arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire mes convictions, mes certitudes, ma façon de voir les choses. Je suis tellement convaincu de ma vérité. Et bien même ça, il l'a crucifié avec lui. Parce qu'il dit, à la place, je vais te donner l'arbre de vie, Christ. D'où la communion avec Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous lisons, « Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est 2 Corinthiens 4, 6, 7. Alors, pourquoi sommes-nous des chrétiens vaincus au lieu d'être des chrétiens vainqueurs? Alors que Christ est vainqueur, comment est-il si fort et moi si faible? Il nous est difficile de renoncer à combattre avec nos propres forces. Il faut le savoir. La nature humaine, encore une fois. Il nous est difficile d'accepter d'être vainqueur de la victoire remportée par un autre. On veut vaincre par notre victoire, mais pas par la victoire d'un autre, c'est-à-dire de Christ. Il nous est difficile de reconnaître notre impuissance. Il nous est difficile d'avouer qu'en nous, il n'y a rien de bon. Chaque jour, nous nous lançons à l'assaut de nos défaites et nous nous écroulons accablés. Chaque jour, nous nous débattons avec nos passions et nous nous réveillons plus liés que jamais par des défaites toujours plus écrasantes. Nous nous lamentons, nous posons des questions, mais c'est quoi cette vie de chrétien? Nous avons regardé à nous-mêmes et nous n'avons vu que l'abîme. Nous avons voulu sentir et éprouver nos forces. Nous n'avons expérimenté que notre faiblesse. Nous voudrions nous sentir améliorés, mais dans notre cœur jaillit sans cesse une source empoisonnée qui nous dit « Vous êtes perdus. » Depuis la création, mes frères et sœurs, depuis la création, rien de nouveau. Depuis la création, c'est le drame de l'humanité. Deux voies spirituelles commencent avec les offrandes de Caïn et d'Abel. L'un apportant à Dieu le fruit de son labeur, de ses efforts. C'est qu'un. Il faut que j'offre à Dieu ce qui est le fruit de ma force, mon travail. Et l'autre, Abel, conscient de l'impossibilité d'une réparation humaine, a donné le meilleur de ce que Dieu lui a donné. Il y en a un qui dit, je lui donne le fruit de mon travail. Et l'autre, je ne peux rien donner de moi-même. Et par contre, je donne à Dieu ce qu'il m'a donné. C'est le conflit permanent de la théologie aujourd'hui. C'est dès les premiers siècles de l'histoire de l'Église. La confrontation entre la grâce triomphante, d'accord, et les œuvres humaines. C'est la confrontation entre la proclamation par Dieu, vous ne méritez rien, je vous accorde ma grâce, et ceux qui disent, je dois faire pour mériter quelque chose. C'est le combat de toutes les civilisations. Aujourd'hui, nous mettons l'humanisme au centre même de la vie, dans le monde. Et même dans l'Église, maintenant l'humanisme rentre dans l'Église. On dit, il faut faire un travail sur soi. Il faut faire appel à des psychiatres et psychologues. Parce que vous avez des capacités en vous. L'homme est capable de résoudre les problèmes du monde. Même chez les chrétiens. On dit, mais c'est pas possible. Faites des efforts. Faites rentrer en vous-même. Et vous allez voir faire une cure d'âme qui va faire de vous des êtres meilleurs. Vous voyez, on a mis l'humain alors que c'est Dieu qu'on met. Dieu, il a dit, il n'y a pas de cure d'âme, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de psychiatrie. La seule psychiatrie, c'est la croix. Vous devez mourir à vous-même et que je puisse prendre toute la place. L'échec de la civilisation moderne est flagrant, on le voit. De moins en moins de morale aujourd'hui. Et on court derrière. Il est interdit d'interdire. L'autorité disparaît petit à petit. C'est la ruine dans le domaine moral et spirituel de nos jours. Le mal devient un bien. Vous savez, mes frères et sœurs, ce qu'on m'a reproché à l'IUT aujourd'hui, d'une manière claire, je ne suis pas assez stratège, donc c'est un défaut. Des autorités qui me l'ont dit. Sur un poste qui était ouvert à l'IUT, on m'a dit, d'autres vont réussir à l'avoir, et certainement ils vont l'avoir. Ils vont, vous savez, j'ai dit, mais pourquoi ? J'étais clair, j'ai montré mes compétences, etc. Non, vous êtes mauvais, vous n'êtes pas assez stratège. C'est-à-dire être menteur, être stratège, anticiper, faire croire les choses, ça devient une qualité. On est dans un monde où règne le mensonge, le paraître. Le mal devient bien. Il n'y a pas d'autre victoire possible pour nous que l'acceptation de la victoire de Jésus. Il n'y a d'autre vertu en nous que la sainteté de Christ. C'est lui en nous qui seul peut être notre sainteté. Il n'y a pas d'autre possibilité de développement de notre personnalité que de laisser grandir en nous le Christ. Il n'y a de puissance que dans la force de sa grâce. Il n'y a qu'un seul qui peut nous délier de l'esclavage, de nos passions, de nos tempéraments, de notre caractère. Et nous connaissons notre caractère à l'humain. C'est Christ et Christ seul. Lui seul est vainqueur. Lui seul est vainqueur. Nous n'avons rien vaincu, nous. Lui seul est vainqueur. Nous ne le serons jamais. Indépendamment de lui qui nous fait vivre sa victoire. Si nous voulons être délivrés de nous-mêmes, si nous voulons être vainqueurs sur nous-mêmes, si nous voulons avoir la maîtrise de nous-mêmes, le self-control, il faut que nous servions à son triomphe et suivre enchaîné derrière son char triomphal. Il nous faut être des vaincus de Dieu et accepter notre mort avec lui sur la croix. C'est la mort du moi. Libre, oui, le chrétien est libre, oui, mais à condition d'être esclave du Christ. L'esclavage avec Christ est une liberté et c'est la véritable liberté. Parce que nous rencontrons notre véritable identité en Christ. Vainqueur, oui, mais à condition qu'il soit notre Seigneur. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comme le déclare l'épître aux Éphésiens, nous devons servir à la louange de sa gloire. Nous ne pouvons jouir de sa victoire qu'en servant à son triomphe. Nos chutes prouvent qu'il n'y a qu'un seul vainqueur. C'est le Christ éternel. Quand nous chutons, nous reconnaissons par là que c'est lui le vainqueur, pas nous. Nous devons diminuer pour qu'il grandisse en nous et ainsi goûter et vivre dans la victoire. C'est l'histoire d'un homme fort devenu faible. Samson, ça vous dit quelque chose ? Samson. Qui prononce lui-même la prière prophétique que le brigand a annoncée sur la croix, dans Juges, chapitre 16, verset 28. « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. » Rien n'est perdu, mes frères et sœurs. Même pour celles et ceux qui semblent avoir quitté la famille de Dieu. Et souvent, nous portons des jugements sur des gens, sur des frères et sœurs qui quittent l'Église. Car c'est la dernière bataille qui compte. Finalement, Dieu gagnera quand même dans leur vie, mes frères et sœurs. Continuons à prier pour nos frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas dans cette église qu'ils ne sont pas sauvés. Pas du tout. Il faut toujours vivre avec l'espoir et l'espérance. Gardons-nous de la dureté à l'égard de ceux qui sont tombés. Nous qui sommes souillés par nature, nous ne pardonnons pas facilement. Et rappelons-nous que seul Dieu peut pardonner, car Dieu seul est saint, seul qui peut pardonner. Mais on est tellement mauvais, on ne pardonne pas ceux qui nous ont quittés. Alors que Dieu nous a pardonné, nous qui ne méritons rien. Au-dessus de tous les abîmes, il y a le ciel et il y a cette croix qui nous libère. Nous avons accepté sa victoire et nous nous réjouissons de son triomphe. Mais n'oublions pas que nous marchons sans cesse vers de nouveaux conflits. Dès que nous acceptons sa victoire, nous rentrons dans les conflits. Le sort de l'homme sur la terre, dit Job, c'est Job qui le dit, est celui d'un soldat. Job, chapitre 7, verset 1. Entre le moment présent, nous sommes présents sur terre, et le ciel, la lutte ne cessera jamais. Nous sommes enrôlés pour une guerre qui doit durer toute la vie. Le jour du repos qui nous est promis sur terre en tant que chrétiens n'est pas un jour sans combat, mais sans les effets du péché, mais avec la paix de sa grâce. L'ennemi montera toujours à l'assaut. Et plus le Seigneur fait de travail en nous, plus le diable attaquera. Et c'est une bonne nouvelle. Plus nous sommes attaqués, plus c'est l'épreuve que le Seigneur fait son travail. Vous voyez ? Et dans tous les sens, nous sommes plus que vainqueurs. Je termine. Il est entré dans le repos de Dieu, celui qui a cessé d'agir par lui-même, de se confier dans ses propres forces, qui laisse Dieu travailler en lui, qui laisse Christ vivre en lui pour maîtriser et dompter ce moi rebelle, attaché à la vieille nature. Dans les épreuves les plus extrêmes, la grâce nous sera toujours suffisante et Dieu nous accordera la paix dans les situations difficiles. Et c'est dans la prière. Et là, c'est une réponse que Dieu nous laisse dans sa parole. C'est dans la prière que nous devons réaliser cet appel à la délivrance. Si nous n'avons pas une vie de prière, nous ne pourrons pas vivre cette communion avec Dieu. La vie de prière, c'est l'oxygène qui nous lie à Dieu. C'est l'oxygène spirituel. Il faut rester dans ce cercle enchanté en Christ, sur le terrain conquis par Jésus-Christ à la croix. En Christ, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Proclamons-le dans nos prières intimes et dans nos prières collectives. La prière est indispensable. C'est l'instrument que Dieu nous demande pour entrer en communion avec lui. Une prière, pas des phrases ou que sais-je, mais une prière sincère, intime, entre soi et Dieu. Sommes-nous, serons-nous avec les vainqueurs qui partagent et qui partageront sa victoire ? C'est Jean qui, dans sa première épître, nous donne une réponse simple et admirable. Quel est le moyen pour se maintenir dans sa victoire ? Une réponse simple que nous trouvons dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Il est écrit, simplement, restez en lui. Simplement, restez en lui. Restez en lui commence par une vie de prière intime. Sans une vie de prière, nous ne pouvons pas déjà comprendre ce que Dieu veut nous dire. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette communion. Si nous n'avons pas de prière, nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne normale. Il est clair. Il n'existe aucun homme, aucune femme de Dieu qui a une vie chrétienne sans prière. C'est un mensonge. L'heure de la grâce et de la victoire, c'est maintenant. Aujourd'hui, dans chaque pas de ta vie, de ma vie avec le Seigneur, tu as et j'ai la grâce pour ce moment, puis pour le moment suivant, et ainsi pour tout le temps de ta vie et de ma vie. Que cela devienne une habitude quotidienne. Marcher avec Jésus, tout pour Dieu, tout en Dieu, voir Dieu partout, en tout et pour tout. Et pour cela, prenons l'habitude d'invoquer tous ces sujets dans la prière. C'est indispensable. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est le mot d'ordre de Jésus. Mes frères et sœurs, n'ayons pas seulement la théorie de la victoire, mais possédons la victoire dans notre âme, car Jésus-Christ est réellement le vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs en lui si nous voulons hériter du royaume de Dieu et le rejoindre dans le ciel. Amen.